Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Le Théâtre National de Chaillot a lancé début avril une campagne de levée de fonds pour la rénovation de ses trésors art déco. La volonté du Front Populaire a été d'édifier un théâtre qui s'adresse au plus grand nombre, explique Didier Deschamps, directeur du théâtre, à Corinne Renoux, Nativelle dans la Croix. Nous voulons donc solliciter le plus grand nombre pour la rénovation de ce lieu qui appartient à tous, où a été rédigée la déclaration universelle des droits de l'homme. Les travaux sur le bâtiment obligent à fermer la salle Gémier, la salle Jean Villard et le petit studio demeurent ouverts, ainsi qu'un théâtre éphémère installé dans le grand foyer jusqu'en juin. Les quatre autres théâtres publics parisiens contraints à des rénovations, souvent rendues urgentes par l'absence d'entretien régulier, faute de fonds, et par des mises aux normes imposées par la loi, n'ont pas la possibilité, eux, de rester ouverts. Ils doivent survivre économiquement pendant les mois ou années de fermeture, alors que courent de nombreux frais, salaires des personnels, etc., et conserver leur place dans le cœur des spectateurs. Pour conserver la relation avec les spectateurs, l'Opéra Comique doit annoncer, par exemple, la création d'événements ponctuels. On étudie aussi au Châtelet la possibilité d'une activité hors les murs. Pour son voisin, le Théâtre de la Ville, divisé en deux sites, dont celui des Abbesses, qui ne ferme pas, l'activité se poursuivra sous différentes formes. En outre, l'équipe recherche un lieu pour continuer d'accompagner des artistes comme Angelin Preljocage ou Anne-Thérèse de Kersmaker. Nous aimerions trouver des sites aménagés ponctuellement pour un spectacle, poursuit Emmanuel de Marcimota, le directeur du Théâtre de la Ville. La fermeture doit être l'occasion d'inventer d'autres cadres. En même temps, ce n'est pas l'offre théâtrale qui manque. Chaque semaine, rien qu'à Paris et dans la région parisienne, près de 400 spectacles sont proposés au public, ce qui fait sans doute de la capitale française la ville du monde la plus riche en matière de théâtre, estime Jean-Luc Génère dans le Figaro Magazine. Une surabondance incroyable qui devrait nous inciter à la fierté et à l'optimisme. Mais ce qui nous est proposé est-il vraiment du théâtre ? S'interroge dans ce long article titré « Est-ce la mort du théâtre ?» le critique dramatique, par ailleurs, directeur du Théâtre du Nord-Ouest. N'est-on pas plutôt envahi par ce qu'on appelle aujourd'hui le « spectacle vivant » entre guillemets, autrement dit un art bâtard, dispensateur d'ego, dont la palette s'étale du one-man show aux lectures spectacles, de relectures de classiques au montage de textes, d'œuvres militantes aux mises en scène distanciées, de comédies, de café-théâtre aux adaptations de romans, sans parler de matières artistiques plus nobles qui, aussi utiles et merveilleuses qu'elles soient, ne sont pas du théâtre, la poésie, la marionnette, les spectacles musicaux, les créations collectives, voire l'improvisation si chère à Jamel Debbouze, que notre non moins cher président voudrait imposer à nos timides écoliers. L'improvisation théâtrale est une activité extrêmement intéressante pour mieux maîtriser la langue française, a ainsi déclaré, cité par l'Obs, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, approuvant la proposition de Manuel Valls d'intégrer dans nos écoles l'art de l'improvisation que porte Jamel Debbouze. Même dans une économie raisonnable, reprend Jean-Luc Génère, le théâtre coûte cher. Et quoi qu'en disent nos ministres successifs de la culture, il y a un désengagement financier et peut-être surtout moral de l'État et des pouvoirs publics. Le théâtre en est donc de plus en plus réduit à une équation simple. Le prix des billets d'entrée doit suffire à payer la production des spectacles. Ce pourrait être sain et d'aucuns peuvent se réjouir de ce retrait de l'État qui fausse la concurrence et coûte aux citoyens, écrit Jean-Luc Génère. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Ce désengagement est destructeur en ce sens qu'il laisse non seulement la place libre aux marchands, dont le seul but évidemment est d'engranger des dividendes, mais qu'il n'est pas total. Demeure impôts, taxes, réglementations de toutes sortes. Comme le dit avec humour, mais la blessure au cœur, Jean-Paul Tribou, il y a 140 personnes à la DRAC Aquitaine que l'on paye pour me dire qu'il n'y a plus de subvention pour le festival de Sarlat. Et Tribou, vrai connaisseur, vrai amateur de théâtre pour Jean-Luc Génère, de pointer les inconséquences de ce désengagement. Prendre moins de risques dans la programmation de son festival, chercher ce qui marche, inviter une vedette pour la rentabilité, diminuer le nombre de comédiens, caresser le public dans le sens du poil. Les conséquences sont impressionnantes. Par exemple, la multiplication des spectacles solo sous forme de monologue ou de one-man show, 150 environ, rien qu'en ce moment à Paris. Ce phénomène qui s'amplifie d'année en année trouve une alliance objective entre raison économique et ego dévorant. Et quand il s'agit indiscutablement de théâtre. Est-ce vraiment du théâtre digne de ce nom? N'est-ce pas pire quand on sait, par exemple, que l'un des plus gros succès de la saison est la pièce de Laurent Baffy, l'auteur français le plus traduit et joué à l'étranger, comme l'avait déjà relevé François Aubel dans le Figaro, Sans filtre, qui est d'une vulgarité inouïe dans la pensée comme dans les actions. On en reste un peu pantois. Il est de bon ton de citer la fameuse phrase de Jean Vilar, le théâtre est un service public aussi nécessaire que le gaz et l'électricité, sans doute, mais à condition que ce soit vraiment du théâtre et non pas un spectacle de plus pour distraire, voire abrutir le peuple. Ou comment, en 8 décennies, le théâtre qui s'adresse au plus grand nombre a quelque peu changé de sens.